jour, j'ai surpris Yael en difficulté à l'entrée de Radio France. Il n'avait pas son badge. Le gars de la sécu lui a dit « Vous passez pas, faut appeler quelqu'un ». Là, il est devenu dingue. Il s'est pointé né avec le mec. Il a hurlé « France Inter, c'est moi! Je suis France Inter! Laissez-moi passer !» Bon, Sonia est descendue. Elle lui a mis une rousse et ça n'est plus arrivé à Yael depuis qu'on lui a fait tatouer son badge sur le front. Sinon, je suis quand même étonné de vous voir ici, monsieur Glucksmann. Hein. Vous êtes le compagnon d'une figure légendaire de cette matinale. C'est un secret pour personne. Tout le monde le sait. Vous êtes en couple avec Marie-Pierre Planchon, notre Miss Météo. Et la présence de Marie-Pierre à l'antenne, c'est quand même un problème en pleine campagne européenne. On sent bien que ces bulletins météo sont très orientés. Comme par hasard, les températures à l'ouest du pays, c'est-à-dire à gauche de la carte, sont bonnes et celles de droite, pas du tout attractives. Message subliminal en pleine campagne. La déontologie en prend plein la gueule.
Merci Daniel Morin. Et merci à vous de nous rejoindre sur Inter. 8h. Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le grand jeu de la déstabilisation dont Moscou est passé maître. Enquête sur les ingérences de la Russie et de ses alliés dans la France des Outre-mer. Nouvelle-Calédonie, Mayotte, détail dans un instant. Pour une concurrence équitable avec la Chine, Xi Jinping à l'Elysée sera-t-il réceptif au message de l'Europe? Les différents commerciaux sont lourds de conséquences pour le continent, on va l'entendre. La une ce matin, c'est aussi l'armée israélienne qui commence à évacuer les civils de Rafah et l'impossible trêve à Gaza. On en parle dans 20 minutes avec votre invité Nicolas.
Oui, dans le grand entretien de la matinale avec Yael Gauz, nous recevons Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères, aujourd'hui représentant personnel d'Emmanuel Macron au Liban. Vos questions 01 45 24 7000 et l'application de France Inter.
Trois morts en moins de 48 heures à Sevran. En Seine-Saint-Denis, trois hommes tués par balle et c'est le trafic de drogue qui est encore pointé du doigt. Et si on prolongeait les vacances, le dilemme de la zone B ce matin, avant le grand pont de l'Ascension, pour certains, ça fera trois semaines de congé. On va les entendre. Et puis PSG Dortmund a un match à prix d'or. Jusqu'à 4000 euros la place au Parc des Princes à la revente. Certains cassent leur tirelire. Pour cette demi-finale retour de Ligue des Champions, c'est demain.
France Inter.
Que vient faire l'Azerbaïdjan, ancienne république soviétique d'Asie centrale, en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi la Russie s'intéresse-t-elle à Mayotte? Dans les deux cas, c'est la France qui est concernée et dans les deux cas, on appelle ça de l'ingérence. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Vous avez enquêté au sein de la cellule investigation de Radio France sur ces tentatives de déstabilisation de Moscou et de ses alliés. Nous sommes donc cette fois loin de Paris et de l'Hexagone, en Outre-mer et d'abord en Nouvelle-Calédonie.
Oui, là-bas, depuis le début de l'année, plusieurs manifestations ont rassemblé des milliers d'indépendantistes opposés à la réforme du corps électoral. Et dans les cortèges, étrangement, on a vu apparaître des drapeaux azéris. L'Azerbaïdjan n'a pas apprécié que la France critique ses interventions militaires au Haut-Karabakh. Alors, il lance des opérations de déstabilisation tous azimuts contre les autorités françaises et donc, il soutient les indépendantistes ultramarins via une structure dédiée, le groupe d'initiative de Bakou. Il y a trois semaines, une élue indépendantiste de Nouvelle-Calédonie s'est même rendue au Parlement azéri pour y signer un mémorandum. Plusieurs élus loyalistes ont ainsi saisi le procureur de Nouméa. Selon leur courrier que nous avons pu consulter, ils estiment que cette démarche relève de la trahison.
La semaine dernière à l'Assemblée, Gérald Darmanin lui-même a officiellement dénoncé l'ingérence extrêmement néfaste de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. Frédéric, la Russie y a aussi entamé un travail de sape contre la France.
Oui, dans ces manifestations indépendantistes, on a aussi vu des banderoles appelant Vladimir Poutine à l'aide. Pour Bastien Van Dendik, analyste en relations internationales qui nous parle depuis Nouméa, la stratégie russe de guerre hybride est bien rodée.
La Russie pourrait faire dans le Pacifique ce qu'elle a fait en Afrique, c'est-à-dire jouer sur les ressentiments anti-français pour déstabiliser la présence française. Sur les réseaux sociaux, on observe aussi la création de vidéos créées et partagées par des comptes qui ne sont pas hébergés en Nouvelle-Calédonie et qui ont parfois des origines russes.
Et la stratégie est la même à Mayotte, dans l'océan Indien, cible de campagnes de désinformation via les réseaux sociaux et de cyberattaques contre les services publics. Là encore, la Russie appuie là où où ça fait mal. Elle se dit prête à aider les Comores voisines qui revendiquent Mayotte. La Russie est très implantée aux Comores, devenue un avant-poste russe à quelques kilomètres d'un département français stratégique, car tout près de Mayotte, Total exploite du gaz.
Frédéric Mettezo de la cellule d'investigation de Radio France, Azerbaïdjan, Russie, Chine, enquête sur les ingérences étrangères dans les outre-mer français, c'est à lire en longueur sur franceinter.fr. Et quand un régime laisse planer une menace sur ses ressortissants à l'étranger, c'est la Chine dont le président Xi Jinping est arrivé en France hier pour une visite d'État jusqu'à demain soir. Peu de commentaires sur ce voyage dans la communauté chinoise en France. Discrétion de rigueur dans le Chinatown parisien, Gabin Grulet.
Au cœur du 13e arrondissement, beaucoup d'habitants et de commerçants font non de la tête, ils ne veulent pas parler.
On a encore la famille en Chine, donc on préfère ne pas avoir des problèmes après.
Cette Parisienne y a vécu jusqu'à ses 13 ans, c'est tout ce qu'elle dira à propos d'elle, elle préfère rester anonyme.
On n'a pas du tout la liberté de la parole ou quoi que ce soit, quoi.
Tous les soirs, elle regarde quand même le journal télévisé chinois. Selon elle, la situation du pays est...
catastrophique. Partout dans les infos, en fait, à chaque fois, c'est Xi, c'est le meilleur et tout.
Xi, c'est Xi Jinping.
Qu'est-ce qu'il a fait, etc. On chante sa chanson, quoi, en gros. C'est un lavage de cerveau, quoi.
Adrien, lui, accepte de donner son prénom. Ce gérant d'un supermarché à Belleville, au nord-est de Paris, aime bien Xi Jinping.
Je pense que c'est un bon président. Il a fait du bien, quand même, aux gens. On a moins de liberté, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, niveau sécurité, après niveau même l'économie, ça tourne bien, quoi.
Mais ici, peu de personnes savent par contre que le président chinois vient en France.
Je n'étais pas du tout en courant.
Sui n'a pas d'avis. Elle s'occupe surtout de la cuisson des nouilles derrière le comptoir de son restaurant.
De toute façon, il ne vient pas nous voir. Il ne va pas venir dans les quartiers chinois. Il va voir, ici, il y a des Chinois, voilà. Moi, le plus important, c'est que si j'ai des clients ou pas.
Mais comme elle, la plupart le disent maintenant qu'ils sont en France, la politique chinoise, ils la regardent de loin.
La politique chinoise au cœur des enjeux de la visite de Xi Jinping ce matin à l'Élysée. Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne vont parler commerce avec lui. Ursula von der Leyen a prévenu cette nuit, elle exigera une concurrence équitable avec la Chine qui subventionne largement son industrie et menace la survie de secteurs entiers en Europe. Fabien Cazot.
Lors de la récente faillite du fabricant nantais de panneaux solaires Systovi, c'est la concurrence chinoise qui a été immédiatement pointée du doigt. La Commission européenne avait déjà lancé début avril deux enquêtes pour pratiques anticoncurrentielles présumées dans ce secteur qui permettraient aux fabricants chinois de casser leurs prix et donc de saturer les marchés occidentaux. Même cause et mêmes effets dans le domaine de la chimie. Les difficultés actuelles du fabricant d'acides aminés Metex en Moselle et dans la Somme en témoignent. Autre secteur particulièrement sensible, les batteries et les voitures électriques. Alors que le constructeur chinois BYD ouvre ses premières concessions en France, notre filière automobile s'inquiète d'une concurrence qui n'a rien de réciproque, tant Renault et Stellantis peinent à percer sur le marché chinois. Signe d'adversité commerciale croissante, la Chine s'est elle aussi lancée dans des enquêtes, c'est nouveau, sur d'éventuelles aides déguisées en Europe. Une riposte qui vise notamment, pour ce qui concerne la France, les producteurs de cognac.
Fabien Cazot, dans ce contexte, la France veut multiplier par 3 ou presque les ventes de voitures électriques d'ici 3 ans seulement. Objectif fixé par le gouvernement avec les constructeurs pour atteindre 800 000 ventes en 2027 et se préparer au 100% électrique décrété pour 2035 en Europe.
Il est 8h08, reste-t-il un espoir de trêve à Gaza ?
Officiellement, les discussions se poursuivent ce lundi au Qatar, mais le Hamas exige un arrêt définitif des combats. Inacceptable, a répété Benjamin Netanyahou, qui vise toujours Rafah, ville surpeuplée du sud de l'enclave, où s'entassent 1 200 000 habitants poussés par les combats. L'offensive ce matin semble se préparer plus précisément. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Jérusalem, où l'armée appelle ce matin les civils de l'est de Rafah à évacuer la zone.
Et c'est sous une pluie battante que les opérations d'évacuation de Rafah ont commencé très tôt ce matin, avec d'abord des messages envoyés en arabe et en anglais pour encourager, c'est le mot utilisé par l'armée, la population à quitter la grande ville du sud. Alors l'armée ne parle pas d'évacuation de grande ampleur, mais d'une évacuation temporaire qui concerne des centaines de milliers de personnes. La zone concernée se situe à la lisière du corridor de Philadelphie qui sépare l'enclave de l'Égypte. Les civils sont donc encouragés à rejoindre au nord le bord de mer vers la localité d'Al-Mawassi. Cette opération promise depuis des semaines par le Premier ministre Benjamin Netanyahou a donc été lancée alors qu'encore en fin de semaine, le Hamas et Israël étaient proches d'un accord de trêve. Hier, le point de passage de Kerem Shalom, juste à côté de la zone évacuée et par où transite l'aide humanitaire, a été attaqué au tir de mortier. 3 soldats sont morts. L'opération d'évacuation pourrait durer au moins plusieurs jours. L'objectif de l'armée israélienne est de démanteler les 4 derniers bataillons du Hamas encore opérationnels.
Thibault Lefebvre, quoi.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Consternation à la Maison Blanche et dans l'équipe de campagne de Biden.
Il est 8h10 en France, la ville de Sevran en Seine-Saint-Denis, théâtre de 2 fusillades pendant le week-end.
Elles ont fait 3 morts entre vendredi soir et hier, en fin de journée, 3 hommes tués par balle. Gaël Joly, le préfet de police, Laurent Nunez, s'est rendu sur place. Il dénonce des fusillades liées au trafic de drogue.
Les deux victimes, âgées de 31 et 35 ans, ont été tuées vers 18h hier dans la cité des Beaudottes. Ils étaient connus des services de police pour violence. Ces trafics de stupéfiants, des tirs qui interviennent moins de 48 heures après une autre fusillade dans le même quartier à moins de 2 km. Vendredi soir, un peu avant minuit, un homme de 28 ans a été tué et plusieurs autres blessés. 2 hommes sont arrivés à bord d'une voiture avant de sortir leur arme. Plus de 20 douilles de type Kalachnikov ont été retrouvées sur place. Après Marseille, Sevran avait fait l'objet d'une opération antidrogue PlaceNet XXL qui déstabilise les trafiquants, selon le préfet de police Laurent Nunez, qui a assuré aux habitants de Sevran continuer la lutte contre le trafic de drogue avec la présence renforcée ces prochaines semaines de policiers locaux.
Cette nuit, c'est un adolescent de 17 ans qui a été tué par balle à Marseille dans le 13e arrondissement. SOS Racisme, la LICRA, les représentants des cultes réunis par le gouvernement pour des assises de la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui. Alors que le nombre d'actes antisémites a presque quadruplé l'an dernier avec une hausse en flèche après le 7 octobre. Mettre un réveil ou pas la semaine sera courte pour tous les élèves de France et sans doute aussi pour leurs parents. 2 jours d'école ou de boulot, puis à partir de mercredi, le grand pont jusqu'à dimanche, sachant que la zone B rentre de vacances ce matin. Alors faut-il reprendre les cours pour 2 jours ou enchaîner sur une 3e semaine de vacances? Question posée par Hélène Fromanti à Lille.
Certains lycéens sont bien tentés de sécher les cours ce matin pour prolonger les vacances.
Je pense que je vais pas y aller au lycée. Pour me reposer. 3 semaines, c'est nickel, 3 semaines.
Franchement, ça sert à rien, mais je pense que mes parents, ils vont me dire que j'y allais.
Moi, j'ai mon bac blond, donc je vais venir.
Quant à ceux qui n'ont pas d'examen cette semaine, la tentation est encore plus forte. C'est le cas des étudiants en classe préparatoire au lycée Federbe à Lille. Sophie a décidé de profiter de tous ses jours fériés pour rester en famille.
Moi, j'habite sur la côte ouest, donc pas du tout à côté de Lille. C'est une zone qui est plutôt touristique. Du coup, les billets de train pour revenir sont extrêmement chers et pour repartir sont extrêmement chers. Donc, j'ai préféré rester chez moi pour les 3 semaines au lieu de dépenser inutilement de l'argent.
Du côté de l'université de Lille, Frédéric Oxtoel espère bien que les étudiants seront sur les bancs de la fac aujourd'hui.
C'est vrai que les étudiants vont avoir envie, de, comme nous d'ailleurs, d'être au beau temps, mais bon, normalement il y a cours à l'université, oui.
Les étudiants font le pont, tout comme cet enseignant-chercheur en informatique.
C'est pas tous les ans, mais cette année, il y aura le pont, voilà. Parce que les étudiants, on va pas les faire revenir pour une journée, il y en a qui habitent loin, dans leur famille, tout ça, je pense que c'est logique de leur laisser une journée, on n'est pas à faire presse. Il faudrait rajouter, c'est des semaines d'enseignement et diminuer un peu les volumes des stages.
Pour cet enseignant, la fin de l'année est de plus en plus tôt, avec des étudiants qui partent en stage dès ce mois-ci.
Hélène Fromanti, France Bleu Nord, bonne fin de vacances donc à la zone B. Dans la série, il en manque à l'hôpital. Les perfusionnistes sonnent l'alerte, indispensable dans les blocs opératoires. Ils sont à peine 300 en France et demandent la reconnaissance de la spécificité de leur métier pour le rendre plus attractif. Les perfusionnistes, c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler. Les voici en plein travail. C'est un reportage de Victor Delande à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Dans le bloc opératoire, un homme de 73 ans doit subir un pontage coronarien. Mais pour réparer l'artère obstruée, il faut d'abord arrêter le cœur Le patient reste donc en vie grâce à la circulation extracorporelle, la CEC.
Départ CEC.
Entendu, départ CEC.
Guillaume Le Breton, professeur en chirurgie cardiovasculaire.
Dès lors qu'on arrête le cœur, en fait, le patient il est maintenu en vie que par la circulation extracorporelle. La machine qui remplace le cœur et les poumons, qui va pomper le sang à la place du cœur et qui va l'oxygéner, c'est géré exclusivement par le perfusionniste qui gère cette machine et qui maintient le patient en vie.
Derrière sa machine, le perfusionniste Emmanuel Corolle est en alerte permanente.
Il y a une cinquantaine de paramètres à surveiller, à réajuster toutes les minutes. C'est une vigilance à chaque instant parce que quand on tourne à un débit à 4, 5, voire 6 litres minute de sang, l'accident peut arriver très très rapidement.
5 ans d'études, 2000 euros par mois en début de carrière et un statut d'infirmier qui ne suffit pas à la profession. Le chirurgien Guillaume Le Breton les défend.
Sans perfusionniste, il n'y a pas de chirurgie cardiaque. Donc nous, notre activité, elle dépend directement des perfusionnistes. Et reconnaître un statut à des gens qui ont un métier hyper spécialisé et avec autant de responsabilités, ça me paraît juste normal en fait.
Il manque une cinquantaine de perfusionnistes en France, à tel point que certains hôpitaux sont obligés d'aller en chercher en Belgique ou en Italie à des prix exorbitants.
Un reportage au Bloc signé Victor Dolan. Le syndicat des perfusionnistes a été reçu vendredi dernier par le ministère de la Santé. Ensemble, ils étudient la possibilité de reconnaître une spécificité au métier et donc de créer une nouvelle nomenclature. Au théâtre, ce soir, Rachida Dati pour un baptême du feu, ses premiers Molière. La cérémonie qui récompense une année sur les planches dans un contexte d'économie demandé au et par le ministère de la Culture. La soirée pourrait bien être très politique, comme régulièrement. Depuis 20 ans, l'an dernier, la prédécesseur de Rachida Dati avait même pris la parole, Stéphane Capron.
D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible.
L'année dernière, pour la première fois depuis la création de ces cérémonies à la télévision, Rima Abdulmalak a demandé un micro pour répondre à l'interpellation de deux comédiennes.
Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture.
En 2004, la soirée est annulée suite à la grève des techniciens du Théâtre des Champs-Élysées. Michel Drucker avait remis les trophées sans micro.
Je n'ai jamais vu autant de journalistes pour un tel fiasco.
Et le ministre de la Culture de l'époque, Renaud Donodieu de Vabre, tentait une médiation en coulisses.
Je voudrais pouvoir discuter tranquillement deux secondes.
2019, un groupe d'intermittents et de gilets jaunes passe par le toit des Folies Bergères et décerne un Molière de la honte à Emmanuel Macron. La séquence est coupée au montage par France Télévisions.
Il devient de plus en plus difficile de vivre décemment de son art ou de son savoir-faire et de bénéficier du chômage quand nous n'avons pas d'emploi.
Jean-Marc Dumonté, le président des Molières, s'attend à de nouvelles prises de parole ce soir.
Ça fait partie des Molières, c'est un espace de liberté qui est donné à chacun de s'exprimer. C'est un moment aussi où on peut affronter des réalités, on a la ministre en face de nous.
Et cette soirée des Molières sera un test pour Rachida Dati. Ce sera son premier face-à-face avec le monde du théâtre depuis son arrivée rue de Valois.
Et parmi les favoris de la soirée, Courgette et le cercle des poètes disparus côté spectacle, Ariane Ascari, Roche Dizem, Ludivine Sagné ou encore Laurent Lafitte chez les comédiens. Papin, Jean-Pierre, légende de l'OM, Tony Parker, l'ex-basketteur, Soprano, le rappeur, ils feront partie de la centaine de premiers porteurs de la flamme olympique à Marseille. Elle arrive mercredi où elle débarquera du 3 mâts le Bélème en provenance de son berceau, la Grèce. Le premier à la prendre en main cette flamme, ce sera Florent Manaudou. Enfin, c'est combien pour voir le match PSG Dortmund demain soir, demi-finale retour de Ligue des Champions. Dans tous les cas, il faudra payer un abonnement télé ou son billet pour le stade, le Parc des Princes. Et là, on parle d'aimer sans compter, puisque le premier prix sur la plateforme de revente officielle du PSG, c'est 375 euros la place, jusqu'à 4000 pour les meilleurs. Alors, qu'est-ce que ça tire les roues ou pas ? Thomas Vichard, c'est le dilemme des supporters.
Maxime était prêt à mettre 600 euros pour une place. Il en a finalement trouvé une à 450 et fera la route demain depuis Clermont.
J'ai jamais mis une telle somme et une demi-finale retour au Parc. Il n'y en a pas eu 50 dans l'histoire, donc c'est au stade qu'il faut la vivre.
C'est la même réflexion qui a poussé Thomas, 27 ans, à débourser 700 euros en tout. À près de 500 euros le billet, plus le transport depuis Rodez dans l'Aveyron et l'hébergement à Paris. Mais comme il n'a jamais vu le PSG au Parc des Princes, cette demi-finale, c'est le moment idéal.
Ça fera peut-être partie de mon top 5 des plus beaux jours de ma vie. Pour ces souvenirs-là, est-ce qu'il y a une valeur ? Non, je pense pas, donc on ferme les yeux.
Hugo a lui renoncé remboursé. Il n'a rien trouvé à moins de 400 euros. Et comme il est étudiant en alternance, impossible de mettre autant d'argent sur la table.
Ça représente presque un quart de mon salaire. C'est soit on va voir le match et on mange des pâtes, ou soit on essaie de vivre convenablement et on regarde le match avec des potes, quoi.
Des prix si hauts, ça désespère Elodie. Cette ancienne abonnée de la Tribune Auteuil pendant 20 ans craint de voir encore des travées remplies de spectateurs et non de supporters.
On est là en train de nous dire tout le stade doit être debout, mais les gens qui sont fanatiques et tout, est-ce qu'ils vont avoir les moyens de prendre des places pour mettre une ambiance? Je suis pas sûre en fait.
Si Elodie a abandonné l'idée de s'acheter un billet, au cas où, elle tente quand même sa chance dans des jeux concours qui offrent des places.
Voilà, PSG Dortmund, 21h demain soir au Parc des Princes. Et merci de ne pas être défaitiste, messieurs, autour de la table. Ça suffit.
Vous faites bien de nous le rappeler, Florence Paracuelos. Merci. L'actrice Emmanuelle Berco à l'affiche de l'Esprit Coubertin de Jérémy Saint et l'invité de Léa Salamé tout à l'heure à 9h20. La météo, Marie-Pierre
La
Blanchon.
Météo, avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Et un temps perturbé encore ce matin.
Oui, c'est pas le pied, Nicolas, et pluvieux sur une bonne partie du pays, car on est cerné par une perturbation, en fait, qui a glissé vers l'est, qu'on retrouve aujourd'hui, là, des Hauts-de-France au Grand Est, au Centre-Est, avec des averses plus éparses sur le sud du Massif Central, au Golfe du Lion, à la Côte d'Azur, avec de la neige sur les Pyrénées et les Alpes, et puis à l'opposé, on a une goutte froide sur l'Atlantique qui donne des averses, qui s'enroule autour d'une petite dépression sur la Bretagne ce matin, jusqu'au Pays de la Loire, avec déjà un caractère orageux. Et en milieu de ces deux zones perturbées, on a une bande assez large du Pays Basque en montant vers les Charentes, au Limousin, l'Île-de-France, à la Normandie, avec un ciel plus ou moins nuageux, avec pas plus de 7 degrés en Ille-et-Vilaine à Fougères, comme dans la Manche, 9 à Guéret, alors qu'il fait 14 à Mulhouse, 15 à Pézenas dans l'Hérault.
Et encore plus de pluie et d'orage cet après-midi.
Oui, mais on attend quand même une amélioration pour jeudi, hein, Nicolas, même si la perturbation donc s'échappe à l'est, elle arrosera encore les régions de l'Alsace aux Alpes, à la Provence, jusqu'à la Méditerranée, aux Pyrénées, avec de la neige à 2000 mètres comme sur les Alpes, mais la Corse restera sous un ciel voilé. Et à l'opposé, bien les pluies liées à la goutte froide rentreront davantage sur l'ouest avec des pluies, mais aussi des orages de la Normandie aux Charentes à l'est de la Bretagne et des averses qui gagneront également les régions de l'Île-de-France au centre. En revanche, retour de quelques éclaircies des Landes à l'Auvergne et à la Lorraine, mais une averse n'est pas exclue sous des températures de saison avec 15 à Rouen, 16 à Lyon et Nantes. Vous aurez 19 à Paris comme à Nice, 26 à Ajaccio, en se rappelant, Nicolas, que s'il pleut à la petite Saint-Jean, le temps s'en ressent jusqu'à la grande Saint-Jean.
Il peut y avoir une certaine logique là-dedans. Merci Marie-Pierre Blanchon.
Bravo.
Il est 8h21.
Le 7-10. Listen anywhere. Huawei Duba. Wahdahu min Souria. Ni brillant. Sur France Inter.
Géopolitique, bonjour Pierre Aski.
Bonjour Nicolas.
Pierre, vous revenez sur la visite du président chinois en France.
À quoi ressemble le monde vu de Chongnanhai, le siège du parti communiste chinois près de la cité interdite de Pékin, où vivaient autrefois les empereurs de Chine? Quelle vision de la France et du monde le numéro 1 chinois Xi Jinping emporte-t-il avec lui lors de ses deux jours de visite, son premier déplacement en Europe depuis 5 ans? Il est toujours utile de se mettre dans la tête de l'autre. Ça permet de saisir l'enjeu de cette visite du point de vue chinois. Tous les non-dits de cette célébration fort peu festive des 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la France du général de Gaulle et la Chine de Mao. Vu de Pékin donc, l'ennemi principal, ce sont les États-Unis, le seul pays avec lequel la Chine se jauge. Les États-Unis qui imposent des sanctions technologiques à la Chine, qui nouent des alliances militaires en Asie-Pacifique et qui protègent Taïwan, l'île rebelle. Tout ce que fait la Chine sur le plan international est conditionné par cette confrontation avec Washington, dont Pékin pense même qu'elle peut déboucher un jour sur une guerre.
Et quelles conséquences, Pierre, sur la relation avec la France?
L'attention particulière réservée à la France est à lire dans ce contexte de nouvelle guerre froide. Comme en 1964, au temps du général de Gaulle, la France est toujours perçue par Pékin comme un pays un peu plus indépendant que les autres vis-à-vis de Washington. Les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'autonomie stratégique, ou plus brutalement sur le risque de vassalisation de l'Europe, sont bien accueillies à Pékin. Pour autant, personne n'est dupe. La Chine connaît les limites de cette indépendance dans le contexte occidental et la France ne voit pas la Chine comme un allié possible, mais comme un rival systémique, selon la formule consacrée, un rival néanmoins incontournable. Lorsqu'Emmanuel Macron déclare à la Tribune dimanche hier « Je ne propose pas de nous écarter de la Chine », ça suffit au bonheur de Pékin, même si ça n'exclut pas des tensions sur le commerce.
Et puis il y a l'Ukraine, Pierre.
C'est en fait, Nicolas, le dossier le plus lourd. Lors de sa visite à Pékin l'an dernier, Emmanuel Macron avait demandé à Xi Jinping d'agir auprès de Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il n'avait rien obtenu. Certes, la Chine ne livre pas d'armes à la Russie, mais elle est devenue sa planche de salut économique. Les États-Unis ont d'ailleurs sanctionné des entreprises chinoises accusées de livrer à la Russie des composants pour l'armement. De nouveau, le président français va plaider auprès du numéro 1 chinois pour qu'il use de son influence auprès de Poutine, mais il risque d'être de nouveau déçu, surtout à quelques mois d'une élection américaine qui peut changer les équilibres mondiaux. Le président russe est attendu dans 2 semaines à Pékin et il y aura sûrement plus de proclamations d'amitié que de pression. La question est plus large et on en revient à la vision du monde vue de Chonanghai. Pékin et Moscou partagent au moins un point, ils contestent l'ordre américain. Xi Jinping ménage les Européens, mais il ne renoncera pas à pousser son agenda qui n'est pas vraiment le même que celui de la France. Ça n'empêchera pas les sourires pendant la visite, mais ça en limite la portée.
Pierre Aski, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Jean-Yves Le Drian.
France Inter, 17h. Marie Misset et Marine Baousson.
Vous pensez que c'est une bonne idée, vous, de mélanger de l'oignon et du chocolat ?
Comme ça, non. Mais laissez-vous convaincre par Raphaël Aumont, notre invité chimiste de ce lundi.
Jusqu'ici, tout va bien. L'émission qui chahute les idées, tous les jours à 17h sur Inter.
France Inter, partenaire des Pestacles UGC. Jusqu'au 23 juin, tous les dimanches, venez découvrir ou redécouvrir 12 grands films pour petits spectateurs dans 33 cinémas UGC partout en France. Un nouveau rendez-vous familial pour faire vivre la passion du cinéma et éveiller la curiosité des enfants à partir de 4 ans. Mon voisin Totoro, Ernest et Célestine, ou encore Là-haut, Wally, Coco et Le Chant de la Mer. Les Pestacles UGC, un événement France Inter.
Il est 8h25.
France Inter, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et avec Yaël Gauze, nous recevons ce matin l'ancien ministre des Affaires étrangères du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, aujourd'hui représentant personnel du président pour le Liban. Il est par ailleurs à la tête du comité de soutien de la liste Besoins d'Europe de Valérie Ayé. Questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Jean-Yves Le Drian, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à ce micro. On va évidemment faire le point sur la situation à Gaza et au Proche-Orient, parler de l'Ukraine et des Européennes. Mais quelques mots d'abord sur la visite d'État du président chinois qui est arrivé en France hier soir, qui sera dans notre pays aujourd'hui et demain. Qu'attendez-vous de cette visite ? Raffermir les liens entre les deux pays, signer des contrats commerciaux, espérer une inflexion quant à son soutien indéfectible à Vladimir Poutine ?
C'est d'abord un anniversaire. S'il vient en ce moment en France, c'est pour marquer le 60e anniversaire de la reconnaissance mutuelle de la Chine de Mao Tse-tung et de la France, initiée par le général de Gaulle, 8 ans avant les États-Unis. Et je pense que cette antériorité a maintenu une espèce de lien particulier entre la Chine et la France.
Vous le qualifiez comment, ce lien ?
De respect. Plus que, et peut-être d'une forme de reconnaissance des peuples, de l'histoire des uns et des autres. En tout cas, il y a un fil particulier qu'il faut essayer de saisir autant que les opportunités nous le permettent de le faire. Et puis, ce que je dois dire aussi, c'est que par rapport à la visite de Xi Jinping il y a 5 ans, la donne a beaucoup changé. Elle a changé en Chine, parce que la Chine a été fragilisée par le Covid, il y a moins d'investissements. Il y a une crise de l'immobilier, il y a un chômage des jeunes qui devient important. Bref, des investissements qui se font ailleurs qu'en Chine, dans l'Asie du Sud-Est. Tout cela fait que la donne est nouvelle. Et puis l'autre aspect de la donne, c'est le renforcement de la puissance militaire chinoise, qui est impressionnant. 3e porte-avions, bientôt 4e. Renforcement aussi de la capacité nucléaire. Aujourd'hui, les forces navales chinois sont supérieurs aux forces navales américaines, même s'ils n'ont peut-être pas la même qualité et les mêmes capacités. Bref, il y a une nouvelle donne de ce côté-là. Puis de l'autre côté, il y a une nouvelle donne aussi parce que l'Europe est sortie de sa naïveté. et que l'Europe n'accepte plus des mesures, des initiatives qui sont prises par les Chinois d'infiltrer des entreprises françaises ou des entreprises européennes à des fins d'utilisation économique ou sécuritaire, parce que l'Europe engage des processus de dénonciation de la non-réciprocité.
On va y revenir.
Tout cela est très nouveau. Et c'est ça la nouvelle donne de la visite d'aujourd'hui du président Xi.
Vous oubliez une autre nouvelle donne, la guerre aux portes de l'Europe,
oui, j'allais
en Ukraine, et on va en parler, parce que depuis le début du conflit en Ukraine, Xi Jinping assure régulièrement Moscou de son amitié indéfectible, sans limite, jusqu'à contribuer à l'effort de guerre russe en Ukraine. Dans ces conditions, est-ce bien raisonnable pour Emmanuel Macron de faire du tourisme avec lui à la Mongie, dans les Hautes-Pyrénées, demain, là où Emmanuel Macron a passé son enfance ?
Ce n'est pas du tourisme, c'est une visite d'État, comme celle qu'avait fait Emmanuel Macron en Chine l'année dernière. Et dans la visite, dans les visites d'État, il y a le parallélisme des formes. Quand le président Macron est allé en Chine, il a eu les entretiens politiques à Pékin, et puis après, il est allé dans les lieux où a vécu Xi Jinping dans son enfance à Canton. Ici, on fait la même chose, d'une certaine manière. Ça
Raphaël Glucksmann, à ce micro, il y a une demi-heure, disait que le président chinois est reçu comme un ami, avec des marques d'amitié. Or, il n'est pas l'ami de la France ni de l'Europe.
Il n'est pas l'ami, il n'est pas l'ennemi non plus. Et donc, il faut parler avec la Chine, pour reprendre les expressions du général de Gaulle en 64, parce que c'est le poids de l'évidence et le poids de la raison. Il faut parler avec la Chine parce que nous ne pouvons pas accepter certaines formes de domination et qu'il faut que nous préservions nos intérêts. Il faut parler avec la Chine sans naïveté. Et je peux vous assurer que le président Macron n'est pas naïf dans tout cela.
On a eu Poutine à Versailles en grande pompe il y a quelques années. Poutine à Brégançon également un été sur un mode intime et amical. Et ça n'a rien donné par rapport à la donne en Ukraine. À quoi bon récidiver avec un allié de l'agresseur russe?
Il faut mettre les choses au clair. J'ai lu ce matin les déclarations du président Xi dans la presse. Il fait des ouvertures à l'égard de l'Ukraine, il fait des ouvertures à l'égard des entreprises européennes. Bref, des messages d'amitié assez forts. Maintenant, on attend les actes. Et les actes, l'acte le plus important, c'est effectivement la manière dont la Chine, le président Xi Jinping, peut aider au règlement du conflit ukrainien, qui est dans une situation d'une très grande gravité, en faisant pression sur Moscou, en faisant pression sur Moscou lorsque Poutine va se rendre à Moscou, en faisant pression sur Moscou en évitant de le seconder dans les efforts de militarisation et d'accroissement de l'économie.
Vous y croyez sincèrement, Jean-Yves
Le Drian ? Ce n'est pas impossible, parce que la nouvelle donne, me semble-t-il aussi, puisqu'on parle de nouvelle donne, c'est le fait que la Chine veut jouer un rôle géopolitique mondial, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent de cette manière. Je suis très frappé, par exemple, par deux des exemples. Le fait que c'est la Chine qui organise une forme de pacification des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite il y a relativement peu de temps, que c'est la Chine qui permet à la COP28 de Dubaï d'avoir des accords politiques sur le climat dès le début de la conférence des parties. Bref, la Chine veut se donner ce rôle géopolitique, même si on sait bien que derrière, ce régime est de plus en plus autoritaire, que le poids du Parti communiste chinois est de plus en plus fort, mais il n'empêche qu'il faut parler avec la Chine, mais il faut parler avec la Chine en européen.
Donc qu'est-ce qu'on dit à Xi Jinping sur TikTok, sur les Ouïghours, sur le Tibet, sur Hong Kong ?
On parle avec fermeté. On dit les choses très clairement.
Face caméra ou c'est du huis clos ? Les droits de l'homme, c'est toujours du huis clos.
Les deux, parce que sur les Ouïghours, vous avez vu que à l'initiative de la France, en soutien avec la Commission, un texte a été retenu au niveau européen pour empêcher le travail forcé et pour interdire les marchandises venant de Chine qui auraient une part de travail forcé liée aux Ouïghours sur le territoire commercial européen. Tout cela, ce sont des faits. Il faut se dire les choses, parce que on ne peut pas, en diplomatie, ne parler qu'avec ceux avec qui nous sommes d'accord. Donc nous avons des désaccords, disons-le. Mais là, sur la visite de Xi Jinping maintenant, le fait qu'il y ait eu des annonces, des ouvertures dans la déclaration de ce matin, attendent maintenant des actes concrets. Je suis tout à fait en phase avec ce que vous dites concernant la relation spécifique de la Chine avec la Russie, avec cette rencontre essentielle dans l'histoire, me semble-t-il, juste avant les Jeux Olympiques de Pékin, c'est-à-dire juste avant
en 2022, février 2022.
L'agression de l'Ukraine par la Russie.
C'est une
Il y a
rencontre.
Eu un accord sur le terme amitié sans limite. Ça veut dire quoi, amitié sans limite? Peut-être qu'il y aura une clarification.
Et puis comme dirait l'autre, il y a les amis et il y a les ennemis. S'ils sont amis, qui sont leurs adversaires ou leurs ennemis? C'est nous?
Ça peut être les peuples de l'environnement russe qui ne accepte pas d'être assujetti à l'agressivité russe, ça peut être ça. Mais en tout cas, nous voulons maintenir notre propre souveraineté européenne et il faut que le président Xi se rende compte à la sortie de cette visite que l'Europe est majeure, que l'Europe a changé, que l'Europe est sortie de la naïveté.
Que l'Europe veut être puissance.
Que l'Europe est en train de devenir une puissance. Moi, je dis progressivement. Mais en tout cas, c'est un grand marché et qu'on atteint ce grand marché qu'en respectant les normes de souveraineté et les normes de réciprocité.
Quelques mots sur l'Ukraine avant le Proche-Orient, Jean-Yves Le Drian. Dans un entretien à l'hebdomadaire The Economist, c'était jeudi, Emmanuel Macron a une nouvelle fois évoqué la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine si les Russes, je cite, devaient percer les lignes de front. Il l'avait déjà dit en février. Là, il précise, il fait un pas de plus. Comme ancien ministre de la Défense, qu'est-ce que ça veut dire exactement si les Russes devaient percer les lignes de front? Quel front? Combien? Quelles troupes?
Eh bien, c'est l'imprécision nécessaire. Il faut laisser le doute. L'ambiguïté stratégique, ça veut dire je fais ce que je dis, mais je ne dis pas ce que je ne ferai pas.
Pourquoi pas se taire tout simplement alors?
Eh ben non, pour dire, nous sommes dans l'ambiguïté. Sachez, président Poutine, que nous sommes dans l'ambiguïté. Vous ne vous refusez rien. Vous-même, vous agitez la menace nucléaire régulièrement. Ce que d'ailleurs condamne le président Xi dans ses déclarations à l'égard du nucléaire. Mais vous ne vous refusez rien, ben nous non plus. Et donc, vous êtes un agresseur. Nous sommes solidaires des Ukrainiens. Nous considérons, et je le dis avec force, que la victoire de la Russie est impensable pour la démocratie, pour l'Ukraine et pour notre propre sécurité. Donc, tout est sur la table.
Et vous comprenez que nos alliés ne comprennent pas forcément toujours le langage d'Emmanuel Macron?
Il y a eu quelques déclarations d'incompréhension peut-être, mais il y a aussi des déclarations de soutien. En tout cas, en bonne logique militaire, on ne dévoile pas son jeu.
Vitali Klitschko, le maire de Kiev, a répondu sur Inter qu'il était plus important de fournir aux Ukrainiens des armements modernes. Que lui répondez-vous sur ce point?
C'est sûr que c'est l'urgence. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre d'épuisement entre l'Ukraine et la Russie. De part et d'autre, les victimes sont considérables. L'épuisement peut se poursuivre le long de la ligne de front, avec aujourd'hui une forme de grignotage successif qui se produit à l'initiative de la Russie, parce que l'Ukraine n'a pas la profondeur stratégique de la Russie, que la Russie a réussi à se renouveler et aujourd'hui à inquiéter davantage les Ukrainiens qu'auparavant. Ça ressemble à Verdun, avec une situation dramatique, mais ce risque-là, il est aussi compensé par l'avantage technologique que peut avoir l'Ukraine. Et l'Ukraine compense l'insuffisance de sa profondeur stratégique, donc de sa population, par l'acquisition technologique. Et de ce côté, le fait que les Américains aient mis beaucoup de temps à décider la livraison d'armes supplémentaires est un handicap qui peut se traduire demain par une pénétration russe plus forte. Il y a une inquiétude parce que la Russie est complètement désinhibée. Et que la Russie déstabilise en permanence. Ouais. Elle déstabilise en Ukraine, elle déstabilise en ce moment en Géorgie, elle peut déstabiliser ailleurs, elle déstabilise en Europe, en jouant sur les ingérences, en jouant sur les attaques cyber. Bref, il faut mettre un coup d'arrêt à cette agression. Et le meilleur moyen de mettre un coup d'arrêt à cette agression, c'est d'une part de rester flou sur nos intentions, et d'autre part de faire en sorte que les livraisons d'armement à l'Ukraine se renforcent le plus vite possible.
Venons-en au Proche-Orient, Jean-Yves Le Drian. Vous vous rendez tout à l'heure en Égypte. Reste-t-il un espoir de trêve à Gaza? Officiellement, les discussions se poursuivent ce lundi au Qatar. Le Hamas exige un arrêt définitif des combats. Benjamin Netanyahou le refuse. Rafah, une offensive semble se préciser sur la ville de Rafah. Votre analyse de la situation et espoir ou pas de trêve?
Moi, je suis assez pessimiste parce que je pensais que les entretiens au Caire allaient pouvoir aboutir. En tout cas, les acteurs arabes se sont beaucoup mobilisés sur le sujet. Malheureusement, c'est pour l'instant l'échec. Mais en tout cas, cet échec ne sert personne. ça ne sert pas les Israéliens parce que les otages ne sont pas libérés, ça ne sert pas le Hamas parce qu'il n'y a pas de perspective de retrait des forces israéliennes de Gaza.
Est-ce que vous redoutez un embrasement dans la région ?
Je le crains. Moi, mon analyse, c'est que, quand on regarde bien la situation, le gagnant muet de tout cela, c'est l'Iran. Parce que, en réalité, l'attaque du Hamas a empêché la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël, parce que l'attaque du Hamas a remis au haut niveau la question palestinienne qui avait été un peu oubliée au cours des dernières années, en particulier sous la présidence Trump, parce que c'est l'Iran qui remet sur le haut des préoccupations la question palestinienne, que par ailleurs il fait fonctionner ses proxys, que ce soit les Houthis en mer Rouge, que ce soit des groupes en Irak et potentiellement le Hezbollah demain. Et pendant ce temps-là, et c'est ça la difficulté la plus importante, pendant ce temps-là, l'Iran continue à développer son accès à l'arme nucléaire. Et on peut imaginer ce que donnera la situation au Proche-Orient demain si l'Iran acquiert l'arme nucléaire. Et moi, je ne suis pas de ceux qui font de l'humour sur le fait que l'Iran a échoué dans sa action contre Israël avec les drones et les missiles qui se sont fait bloquer par le dôme de fer. La nouveauté, c'est que pour la première fois, l'Iran a attaqué Israël. Et donc, si demain, il y a l'arme nucléaire, ça serait un drame. Donc, je pense que c'est l'intérêt de tous qu'il y ait aujourd'hui une trêve et qu'on engage le processus humanitaire d'abord, politique ensuite, sur la base des deux États. C'est aussi l'intérêt d'Israël. Le blocage par Netanyahou de toute tentative politique concernant l'affirmation de la nécessité de deux États sur l'ensemble du secteur est un blocage qui est suicidaire, à mon sens, à terme.
Avant les européennes, une dernière question. Comment recevez-vous les images de mobilisation étudiante aux États-Unis, dans une moindre mesure en France, mais notamment à Sciences Po, Jean-Yves Le Drian ?
Moi, je comprends que l'on soutienne le peuple palestinien. Ce qui se passe à Rafah et à Gaza est parfaitement inacceptable. C'est un désastre et un massacre innommable. Mais je pense qu'il faut dire en même temps que les attaques du Hamas du 7 octobre étaient parfaitement inacceptables. Si on ne dit pas les deux, à ce moment-là, on n'est pas crédible. Et je pense que ceux qui défendent la cause palestinienne devraient en même temps réaffirmer qu'ils reconnaissent à Israël le droit de vivre dans des frontières reconnues.
Et enquête IFOP pour Le Parisien ce matin, 86% des Juifs de France craignent davantage d'être victimes d'agressions antisémites depuis le 7 octobre.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis la même chose, là, que je dis très clairement qu'il faut en permanence répéter que le 7 octobre, ça a été l'agression antisémite la plus forte depuis la dernière guerre mondiale et qu'il faut la condamner fermement.
Les Européennes, pour ceux qui ne le savaient pas, vous présidez le comité de soutien à la liste de Valérie Ayer. Et c'est ce matin, avant le meeting de demain à la Mutualité à Paris, que seront dévoilées les 48 propositions du programme.
Oui.
En attendant, les sondages d'intention de vote se suivent et se ressemblent. On a jusqu'à 15 à 16 points d'écart entre vous et la liste Jordan Bardella. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Pourquoi ça ne prend pas ?
Parce que la campagne n'a pas commencé.
La campagne commence.
Disons, ok, elle commence maintenant parce que avant c'était une espèce de tour de chauffe où chacun essayait de faire de l'élection européenne une élection nationale intermédiaire et une élection pour ou contre Macron. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui l'Europe est en danger. Elle est en danger de l'extérieur, par l'extérieur, parce qu'il y a la guerre sur notre territoire européen, parce qu'il y a la guerre au Proche-Orient avec toutes les conséquences dont on vient de parler, mais aussi parce qu'il y a des volontés de l'intérieur de remettre en cause le grand espoir européen qui est né après la dernière guerre mondiale. Et puis parallèlement à cela, l'Europe est en danger parce que les deux grandes puissances qui s'affirment, États-Unis, Chine, ont peut-être intérêt à la non-existence européenne. C'est pour ça qu'il est important que le président Macron reçoive le président Xi aujourd'hui en présence de Madame von der Leyen, c'est-à-dire de manière européenne.
Pourquoi ça n'infuse pas ?
L'Europe est en danger.
Oui, mais pourquoi ça n'infuse pas, Jean-Yves Le Drian ?
Mais ça moi, je suis convaincu que ça va infuser. C'est le début de la campagne. Maintenant, on vient à la campagne européenne. J'attends avec intérêt les propositions des uns et des autres sur l'avenir de l'Europe.
Et vous pensez que l'écart de 15 à 30 va se réduire ?
Moi, je me suis engagé en politique sur l'Europe. D'abord parce que je suis né dans une région qui est très pro-européenne, et ensuite parce que j'ai suivi François Mitterrand dans son enthousiasme et sa volonté ferme de faire l'Europe pour éviter la guerre.
Le nationalisme,
parce que
c'est
la
guerre.
J'ai suivi Jacques Delors, comme vous le savez, et parce que j'ai suivi Emmanuel Macron, j'ai fait le choix d'Emmanuel Macron parce que l'engagement européen. Et j'ai eu la chance d'être son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc tout ça me conduit à quitter une espèce de retraite et à dire attention, il y a danger, la situation est grave, l'Europe risque de sortir de l'histoire et de se dépecer, de devenir...
Mais comment expliquez-vous la dynamique Rassemblement National, Jean-Luc
Parce que Monsieur Bardella fait feu de tout bois, il avance masqué, il rassemble tous les mécontents sur non pas sur les sujets européens sur lesquels on va peut-être revenir, mais sur l'addition des mécontentements sur tel ou tel aspect de la politique menée par le gouvernement. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on veut vivre en européen demain ou est-ce qu'on veut accepter que l'avenir de la planète soit partagé entre la puissance américaine et la puissance chinoise. C'est bien ça le sujet.
Mais vu votre parcours de social-démocrate que vous nous rappeliez à l'instant, social-démocrate breton, rocardien, deloriste, qu'est-ce qui vous empêcherait de voter pour un Raphaël Glucksmann aujourd'hui, sachant que votre ancien camarade du PS, Bertrand Delanoë, a clairement choisi son camp aujourd'hui. Il sera sur la liste socialiste. Il soutiendra la liste socialiste.
Moi, j'ai une interrogation. Il y a un truc qui ne va pas avec Glucksmann. Je vous le dis très, très clairement.
C'est quoi ?
Il se réclame de la social-démocratie. Il se réclame de Jacques Delors. Très bien. Moi aussi. Mmh. Seulement, quand je regarde ses votes au Parlement européen, il ne travaille pas avec les autres socialistes européens. Parce que la social-démocratie, c'est pas uniquement en France. La social-démocratie, c'est en Europe. Il y a le Parti Socialiste Espagnol, il y a le Parti Démocrate Italien. Bref, et je constate que sur les votes les plus importants, que ce soit le vote sur l'énergie, que ce soit le vote sur le plan de relance, que ce soit le vote sur le plan asile-migration, sur des sujets d'une telle importance, travailler avec les sociaux-démocrates européens, ils ne votent pas. Donc je m'interroge sur la capacité de M. Glucksmann à peser dans l'avenir s'il ne travaille pas avec les sociaux-démocrates européens. Ça, c'est un mystère. C'est sans doute dû, à mon avis, par le fait qu'il est, d'une certaine manière, même si lui ne le dit pas, l'héritier de la NUPES qui a été en remise en cause des traités européens et peut-être qu'il n'arrive pas à s'en défaire. En tout cas, il faudrait qu'il dise comment il va faire.
Emmanuel Macron, vous a-t-il proposé un jour de tirer la liste ? Renaissance et ses alliés.
Oui, moi, quand j'ai quitté le gouvernement en 2022, j'ai dit que il y avait un âge pour tout. Et donc
sans regret aujourd'hui, vous estimez pas que vous auriez eu plus de poids peut-être en étant la tête de liste vous-même.
Moi, je soutiens Valérie Ayer. Je vais faire des réunions publiques pour elle. Je pense que c'est important de renouveler le personnel politique de Renaissance et que c'était aussi utile de placer en tête de liste une députée européenne qui a fait ses preuves, qui a marqué la période qui vient de se dérouler, le mandat européen récent, par son dynamisme, sa capacité de travail. Mmh. Bref, c'est la bonne personne au bon endroit.
Dans l'interview à la Tribune dimanche, Emmanuel Macron, publié donc hier, a reconnu un certain nombre d'erreurs après ses 7 années à la tête du pays, notamment de ne pas avoir fait la réforme des retraites par points et d'avoir abandonné le chantier des réformes institutionnelles. Jean-Yves Le Drian, partagez-vous d'autres regrets avec le chef de l'État et si oui, lesquels ?
Je partage plusieurs regrets. Bon, c'est normal de faire un retour en arrière maintenant, pour moi. C'est le fait que la décentralisation n'a pas été au cœur. Je pense qu'il y avait une opportunité, je l'ai déjà dit au président Macron, il y avait une grande opportunité après le grand débat
des Gilets jaunes, post-Gilets
jaunes. Après le grand débat post-Gilets jaunes, de dire voilà, j'ai rencontré tout le monde, je vois bien qu'il y a une aspiration à la fois à innover, à la fois à proposer, mais aussi à s'organiser autrement, et je lance un grand train de décentralisation pour responsabiliser davantage et pour que chaque Français sache qui fait quoi dans la démocratie et du même coup accélérer le processus démocratique. Ça, c'est mon grand regret.
Merci Jean-Yves Le Drian d'avoir été à notre micro ce matin. Il est 8h47.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce mardi,
je m'appelle Zao. Il
fait toujours beau au-dessus des nuages.
Zao de Sagazan, la voix de la nouvelle génération. Par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corley.
Dis-moi ce je t'aime.
concert unique en direct et en public sur France Inter ce mardi à partir de 20h.
Mathilde Thomas, fondatrice de Caudalie, nous parle du numéro 1 de l'antitache en pharmacie.
Le sérum VinoPerfect corrige toutes les taches liées au soleil, aux cicatrices d'acné, aux masques de grossesse, à l'âge. C'est prouvé. La coloration des taches diminue de 63% des 1 flacon. Et sur tous les types de peau, des plus clairs aux plus foncés, même les peaux sensibles.
En ce moment, pour l'achat d'un sérum VinoPerfect Caudalie, la crème solaire SPF 50+, offerte, dans la limite des stocks disponibles. Source Gers Data à fin décembre 2023. Plus d'informations sur caudalie.com.
La revue de presse, Claude Ascoloville.
France Inter. Le 7-10.
Oui, mon cher Claude, on parle d'une fortune.
Et d'une particule que la famille Guyon acquit au XVIIIe siècle, devenant Guyon de Princé en achetant château et charge de secrétaire du roi. Patrimoine qui devait tout à la traite négrière. Et dans Ouest-France ce matin, paume ouverte sourit un descendant de cette famille, Pierre Guyon de Princé. Il sourit à Nantes, près de Dieudonné Boutrin, lui né en Martinique et descendant d'esclaves. Les deux hommes sont amis, se disent responsables de l'avenir au nom du passé, veulent créer une communauté des descendants d'esclaves et d'esclavagistes. La famille Guyon de Princé a tout perdu des richesses de la traite. Pierre et Dieudonné sont beaux. Dans l'équipe, regardez la beauté d'un homme, grand et maigre, torse nu, vêtu d'un simple short, devant un génie, petite boule de muscles. Elle date de 1981, cette photo de Maradona, prenant la leçon de César Luis Menotti, qui est mort hier, âgé de 85 ans, un de ses entraîneurs par lesquels le football est un art pour l'humanité. Ce truc du résultat qui prime, c'est une lâche infamie, avait dit Menotti au magazine SoFoot en décembre 2018. L'interview ressort sur le site, somptueuse. Vous lirez que Menotti un jour avait dit à Johan Cruyff, Flaco, tu m'as sauvé la vie. Car Cruyff, plus grand joueur de son temps, avait renoncé à la Coupe du Monde 78 que l'Argentine avait remportée contre la Hollande. Et sans cette victoire, que serait-il arrivé à Menotti, communiste dirigeant la sélection d'un pays sous dictature militaire fasciste? Sa fédération le protégeait. Et même quand il me parle d'histoire, ce que j'aime chez Menotti, c'est qu'il se souvient qu'il avait donné à Cruyff le surnom qui était le sien, Flaco, le maigre. Menotti, comme Cruyff, faisait du jeu un art. Il se targuait d'avoir inventé le grand jeu du Barça, les passes courtes. Il médisait des entraîneurs qui crient depuis leur banc, ça déconcentre. Mais lui, à la mi-temps d'un match qu'il menait pourtant, pouvait dire à ses joueurs, si dans 15 minutes vous jouez encore comme ça, c'est que je ne sers à rien, donc je m'en vais. Il opposait le spectateur qui s'en va au football ou au tango parce que c'est joli, au public qui connaît les chansons et le jeu. Il citait Barenboim, virtuose né en Argentine. Il faut faire attention avec l'excès de répétition parce que ça peut se retourner contre ton œuvre. Nous improviserons. On me parle d'un autre homme de beauté sur deux très belles pages de Libération. Sublime photo du bonhomme, le cigare au bec, un t-shirt de l'université américaine Notre-Dame et quel sourire. On me parle de lui dans le Figaro aussi, sur le site du Monde et le site Connaissance des Arts. Et je lis cette phrase célèbre, « Ce que vous voyez est ce que vous voyez ». J'imagine que Menotti aurait pu l'inventer, cette maxime qui est de Frank Stella, peintre et sculpteur, révolutionnaire, inventeur du minimalisme américain, mort lui à 87 ans. Lisez des formes, des couleurs, des querelles de supporters. Êtes-vous Stella ou Pollock? Lisez La Joie et sachez qu'il existe une œuvre de Stella géante et kaléidoscopique dans notre musée national d'art moderne, Polombe, dont le nom est celui d'une cité imaginaire, théâtre des aventures du chevalier John Mandeville, qu'on croyait véridique au Moyen-Âge, mais qui n'était qu'une invention. C'est encore mieux.
Et on parle aussi de pétrole.
Qui de l'eau est l'ennemi, nous dit Libération, encore dans une enquête dérangeante que je résume ici, pardon, résumé est péché. Mais bref, l'État a autorisé l'an dernier une extension de forages en Seine-et-Marne, mais ces forages mis en œuvre menaceraient une nappe phréatique qui alimente en eau potable 180 000 franciliens. La société Eau de Paris s'en va devant le tribunal administratif, discorde dans l'État. C'est une des nouvelles, pas jolies, d'un matin que j'aurais voulu par mes journaux simplement beau. Sur Mediapart, pour faire bon poids, ils et les dérives hors la loi, hors la raison, d'agents et d'anciens de la DGSI. Dans l'Humanité, lisez que cette station, France Inter, selon le journal, je cite, « veut faire taire les voix de gauche ». Cet article vient après ceux du Monde, de Télérama, de Mediapart, du Point, j'en oublie peut-être, qui font suite à la convocation devant la DRH de l'humoriste Guillaume Meurice et à des suppressions d'émissions et de chroniques. Sur le site du Point encore, l'essayiste Chloé Morin s'insurge du licenciement de France Info pour faute grave de son compagnon, le journaliste Jean-François Aquili, pour entre autres un projet de livre avec Jordan Bardella. Je la cite. « Nous parlons d'un média public qui a des comptes à rendre aux Français. Les électeurs RN auront compris qu'ils sont bons à payer leurs impôts, mais ne méritent en retour que le mépris des radios qu'ils contribuent à financer. Il est toujours étrange, disant les journaux, de se voir dans des tempêtes. Ne pas vous le dire aurait été une faute. »
Il est 8h52 et on parle enfin d'un nombre.
53, comme le nombre de jours qu'il fallut à Stendhal pour écrire La Chartreuse de Parme, et comme le titre hommage 53 jours d'un roman posthume de Georges Perec, immense écrivain parti en 1982. 53, comme le nombre de romans hommage à Perec que va sortir en 9 ans l'éditeur Thierry Baudin-Hulin. Tous seront un témoignage, une amitié à cet homme, orphelin de la guerre et de la Shoah, qui se cachait liche tragiquement derrière le jeu. C'est encore sur Ouest France, ça parle encore de Nantes, quelle ville ce matin. Et puis, dans le télégramme, qui la raconte souvent, lisez la métamorphose d'une chanteuse que la France connut dans une joyeuse bande, dite Basile, et qui chantait ceci. Et qui chante, mes amis, désormais, elle chante cela. Voici Alix Cognam, chouettissime vieille dame, qui dans un livre, par des enregistrements des concerts, rend hommage aux chants gaéliques, les ballades de l'Écosse, des îles Hébrides, les chansons des femmes qui foulaient la laine pour en faire le tweed, et elle chante tant de mémoire. Elle fut célèbre autrefois, invitée de Valéry Giscard d'Estaing, pour la joyeuse chenille qui semble désormais un malentendu. Avant cela, elle avait été la fille globe-trotteur d'un papa diplomate, elle avait été étudiée le théâtre aux États-Unis, elle avait été chanteuse folle, guitare en bandoulière dans le Paris des années 60, et puis un hasard d'un amour lui avait amené la chenille, un autre hasard l'en a libérée. En 79, après un concert, accident de voiture, elle part se remettre en Angleterre et dans une librairie, je tombe sur un recueil de chants et poèmes traditionnels des femmes des Hébrides. Elle est allée maintes fois là-haut en stop, quérir chez ses chansons, ou dans ce pays où entre loques et montagnes, les fleurs, la scie, s'épanouissent au printemps.
Merci Claude pour cette revue de presse. Un monde nouveau, cette semaine avec Carole Boinet, la directrice des Inrecuptibles. Alors Madame la directrice, vous nous parlez ce matin d'un dialogue d'outre-tombe.
Et oui, c'est ce que propose le musée Dalí de Saint-Pétersbourg en Floride. Oui, il y a une ville qui s'appelle Saint-Pétersbourg en Floride aux États-Unis. Donc dans ce musée fondé en 1982 par deux amis de Dalí, il est désormais possible aujourd'hui, en 2024, de parler avec Salvador Dalí. Voilà, j'essaie de l'imiter, tentative un peu infructueuse matinale.
Merci.
Pour ce faire, il faut décrocher le fameux Lobster téléphone de Dalí, cette sculpture qui représente un téléphone en forme de homard qu'il a réalisé en 1938. Et à l'autre bout du fil, bah, la voix de Dalí.
Hi, I'm Salvador Dalí and you can ask me anything.
Comment est-ce possible ?
Eh bien, avec l'intelligence artificielle, vous savez, il semble que tout soit désormais possible, même de ressusciter Salvador Dalí pour lui faire un brin de causette. Le musée a monté cette opération en partenariat avec l'agence créative Goodbye Silverstein & Partners, qui, elle, a utilisé tous les écrits, interviews et archives audio de Dalí et s'est servi des intelligences artificielles GPT-4 et 11V2. Vous mélangez tout ça et boum, vous obtenez la voix de Dalí qui vous dit
« How can anyone possibly know ?»
Comment quelqu'un pourrait savoir ce qui se trouve dans l'esprit bouillonnant de Dalí ?
No, they simply cannot.
Impossible. Les gens sont de simples mortels. Mais maintenant, je peux vous le dire.
Mais ce n'est pas le seul musée à s'engager sur cette voie.
Et non, en février, c'est au musée d'Orsay que ressuscitait cette fois-ci non pas Dalí, mais Vincent Van Gogh. Baptisé Hello Vincent, l'application développée par Jumbo Mana, une start-up spécialisée dans les IA génératives, prenait la forme d'un personnage animé avec lequel les visiteurs pouvaient converser. Alors d'où sortaient les phrases prononcées par le fantôme de Van Gogh ? De ces quelques 900 lettres dans lesquelles le peintre parle de sa vie et de son art. L'une des questions les plus fréquemment posées portait sur son suicide. À quoi Van Gogh, enfin l'IA de Van Gogh, répondait « Le sujet de mon suicide est un lourd fardeau à porter. Dans mes moments les plus sombres, j'ai cru que mettre fin à mes jours était la seule façon d'échapper aux tourments qui envahissaient mon esprit. » Une exposition immersive à Orsay qui a été un véritable carton avec près de 800 000 visiteurs. On peut aussi citer l'exposition « Voices from the Front » présentée à la Nouvelle-Orléans le mois dernier, qui proposait elle aux visiteurs de s'entretenir avec 18 Américains impliqués dans la Seconde Guerre mondiale, du vétéran à l'infirmière. Alors pas de doute, l'IA n'a pas fini de nous surprendre et nous n'avons pas fini de nous demander s'il est éthiquement viable de faire parler les morts.
Carole Boinet, merci. 8h57. Sophia Aram, c'est à vous, on vous écoute.
Eh bien, malgré l'embouteillage de dictateurs dans le ciel français, nous avons pu entendre le président de la République démocratique du Congo vanter les mérites de la République non moins démocratique chinoise. C'était sur LCI, au micro de Darius Rochebain, je vais réussir à le dire, mais quand Félix Tshisekedi est interviewé, eh bien, c'est lui qui pose les questions.
C'est quoi la démocratie ?
Alors on ne s'attendait pas à se prendre une leçon de démocratie par Tshisekedi, d'autant qu'il a enchaîné en répondant à sa propre question.
J'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont.
Bah oui, parce que quand on est président de la RDC, on fait également les enquêtes de terrain, mais aussi les analyses comparatives.
Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. N'y a-t-il pas eu de manifestation à Paris qui ont causé des morts?
Voilà, Paris, Tiananmen, tout ça, c'est du pareil au même. Hein. Mais le plus surprenant, quand avec ce relativisme débonnaire, hein, réduisant tranquillou pépouze la démocratie française à celle de la Chine, c'est encore l'écho dont il bénéficie toujours chez les nationalistes français qui nous servent de patriotes en carton-pâte. Il suffit de lire Aymeric Chauprade, ancien conseiller diplomatique de Marine Le Pen, déclaré sur les réseaux sociaux, je cite, « J'approuve les propos du président de la RDC. Le monde en a marre des leçons de démocratie, d'autant que ces prétendues démocraties occidentales vivent sous la tyrannie des minorités radicales. » Je sais ce que vous vous demandez à cet instant précis. Mais quelle est-ce donc cette minorité radicale dont la France vivrait sous et dont Aymeric Chauprade dit n'en a marre, hein ? Eh bien, la réponse arrive sous forme de question formulée toujours par l'inénarrable Chauprade qui poursuit, je lis, « Est-ce qu'on a demandé aux Français s'ils voulaient être représentés par une drag queen ?» Un propos légèrement what the fuck au premier abord, hein, mais comme au deuxième ou à tous les autres d'ailleurs, et qui renvoie à une argumentation très répandue à l'extrême droite visant à relativiser les vertus des démocraties occidentales pour mieux brader au nom de la préférence nationale les intérêts de la France au profit bah, de la Russie ou de la Chine par exemple. Mais le plus surprenant reste encore l'échange qui s'en est suivi sur Twitter entre Chauprade et Fergan Aziari, journaliste et chroniqueur à l'hebdomadaire Le Point, après que ce dernier lui ait fait remarquer la contradiction entre cette posture et son prétendu patriotisme. Ce à quoi Chauprade a répondu que son patriotisme se nourrissait plutôt de son attachement à la France, son histoire, sa civilisation, ses génies, mais je cite « C'était à l'époque de mes ancêtres et bien avant votre arrivée. » Fermez les guillemets. Voilà, un message dont la violence et l'indécence marquent exactement toute la tartufferie d'une extrême droite vendue aux intérêts étrangers, n'ayant pour se raccrocher aux branches que le racisme d'une pensée moisie, bouffant de la racine chrétienne jusqu'à la souche, pour exclure a priori tout sentiment patriotique chez les Français issus de l'immigration. Un échange qui rappelle, comme l'écrit Fergan Aziari, que je cite « L'ancienneté de l'installation dans un pays ne protège hélas pas toujours de la tentation de se faire l'idiot utile de l'ennemi et que, poursuit-il, dans certains milieux, il est vrai que c'est une tradition ancestrale.
Sophia Hara, merci. Et les infos à suivre.